La journée mondiale de la population est célébrée chaque année le 11 juillet par l'ONU, objectif attirer l'attention sur l'urgence des questions liées à la population. Le 11 juillet, c'était mercredi dernier, ce soir on ouvre ce dossier de la démographie. Quelques chiffres, 1990, nous étions 5 milliards 300 millions, 2017, 7 milliards 600 millions, 2030, nous serons 8 milliards 600 millions, 2050, 9 milliards 800 millions, 2100, 11 milliards 200 millions. Des chiffres de l'ONU, ces projections sont basées sur des variations moyennes. Elles tablent sur un recul du taux de fécondité et un allongement de l'espérance de vie. Alors comment analyser ces chiffres? Quelles conséquences économiques, migratoires, écologiques? Et cette question qui revient si souvent, sommes-nous trop nombreux sur la Terre? Question légitime ou absurde? Pour y répondre et pour vous répondre, au 01 45 24 7000, le standard du téléphone sonne. Nos invités, Serge Guérin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement, professeur à l'école de commerce et de management INSEC à Paris. Vous avez publié aux éditions La Charte, La Silver Économie avec Dominique Boulbès. C'était au mois d'avril dernier. Et puis dans les studios de nos amis de France Bleu La Rochelle, Gilles Pison. Bonsoir Gilles Pison.
Bonsoir.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, chercheur associé à l'Institut National d'Études Démographiques. Vous êtes l'auteur de La Démographie Mondiale. C'est paru en 2015 aux une coédition Rue des Écoles et Le Monde Sup.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Au standard dans la Meuse, Patrice est avec nous. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir à tous.
Première question, c'est pour vous.
Voilà, il me semble que nourrir toute l'humanité demeure une problématique numéro un. Je veux savoir dans quelle mesure on pourrait y parvenir à partir de produits sains en tenant compte des impératifs environnementaux. Si vous me permettez une modeste analyse citoyenne, il me semble que le sujet très important que vous abordez ce soir pose une problématique systémique très complexe mais qui comporte deux volets majeurs. On a d'une part la répartition des richesses de la planète en tenant compte de la préservation de cette planète, ce qui induit de fait une question essentielle, c'est celle des échanges. Et je veux dire, ce qui me rend furax, c'est souvent le commentaire des analystes économiques, parce que vous avez une majorité d'entre eux qui ne parlent que de finances, d'échanges commerciaux, de parts de marché relativement à la démographie, mais qui oublient totalement l'aspect environnemental précisément lié à la démographie et aux échanges induits. Et là, on est dans un manque de vision systémique qui devrait pourtant être incontournable. Et puis d'autre part, la problématique du contrôle des naissances vient évidemment, tombe sous le sens. Comment éviter le plus possible un taux élevé de naissance? Au-delà de certaines réticences, je pense notamment à certains intégristes religieux qui font obstruction au contrôle des naissances. Et puis une dernière chose, c'est la montée des nationalismes, qui pour moi est une aberration, parce que c'est par rapport aux nécessités d'avoir une politique globale des grands problèmes démographiques, environnementaux, n'en déplaise à tous ces extrêmes droites, ce sont des furons de nos sociétés, et vraiment c'est regrettable. Quoi.
Patrice, vous avez soulevé de nombreuses questions lors de cette première intervention. Serge Guérin, d'abord, Patrice évoquait le problème de comment nourrir toute l'humanité avec cette progression de la population.
Patrice a raison en disant qu'il faut essayer d'avoir une approche globale. Parce qu'en effet, chacun, on essaie de répondre dans un petit morceau. Alors, on peut se dire déjà que si on consomme comme les consommateurs américains ou comme les consommateurs français, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on consomme trop par rapport au nombre de personnes. Donc là, notre mère Terre, elle peut pas tenir, quoi, d'une certaine manière. Donc de toute manière, il y a déjà cette problématique-là. Deuxième questionnement, il parlait des échanges. Une des pistes, une des réponses, c'est sans doute de faire en sorte que, en fin de compte, alors je vais aller peut-être à contre-courant de plein de discours, qu'il faut, je crois, réduire les échanges. C'est-à-dire, le plus possible, consommer sur place. Pas tout. Moi, j'adore le chocolat, le cacao, j'ai bien compris qu'il se faisait pas en France. Mais globalement, essayez le plus possible de consommer des produits qui sont faits le plus près possible de chez nous, parce que comme ça, on réduit les transports, on réduit les coûts, et puis par ailleurs, consommer des produits qui sont faits au bon moment, selon les saisons. Rien qu'autour de ça, on a déjà des marges de progression assez fortes. L'autre élément qui a été évoqué, en effet, il est absolument majeur. Il est celui du contrôle de naissance, et aussi, de fait, de donner un pouvoir bien supérieur aux femmes, alors à la fois dans l'éducation, mais aussi dans la compréhension que non, la réussite d'une vie, c'est pas faire 15 enfants. Et que d'ailleurs, il y avait une ministre de la Santé sénégalaise dans le temps qui expliquait que d'ailleurs, on ne peut pas bien éduquer 15 enfants, que donc, il vaut mieux en avoir moins et que de ce point de vue-là, on les éduquera en plus mieux.
Patrice évoquait aussi l'environnement.
Tout ça fait partie de cela, en effet. Ouais. Alors, vous me direz, à force que l'environnement se dérègle complètement, à un moment donné, il y aura une réponse de la nature qui sera une réponse dramatique, c'est-à-dire peut-être des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vont souffrir de plus en plus, voire qui vont mourir. On sait qu'on a un questionnement autour de l'eau, par exemple. On sait qu'on a déjà des réfugiés climatiques. Donc, en effet, on se crée en n'étant pas face à l'environnement, en continuant de regarder à côté. Le président Chirac, dans le temps, disait « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'est quand même ce que nous continuons de faire, gouvernement comme population. La seule réponse qui existe aujourd'hui, c'est un niveau très très de proximité où des gens essaient de s'organiser. Encore une fois, la question de l'environnement, c'est aussi la question de la consommation, c'est aussi la question de la consommation la plus locale possible.
On a évoqué le contrôle des naissances. Le thème cette année de cette journée mondiale de la population, c'est « La planification familiale est un droit de l'homme ». Je vous pose la question, Gilles Pison, dans les studios de nos amis de France Bleu La Rochelle, où ce droit n'est pas respecté dans le monde ? La planification familiale. Il y a des endroits où ce n'est pas un droit.
Alors, à l'échelle mondiale, les femmes, les couples ont 2,5 enfants en moyenne chacun. Il y a 50 ans, ils en avaient en moyenne 5. Donc, les choses évoluent et pratiquement tous les couples partout sur la planète souhaitent avoir moins d'enfants. Et donc, les projections des Nations Unies que vous avez évoquées prévoient que cette baisse de la fécondité va se poursuivre. Donc, globalement, si vous voulez, l'humanité va vers des familles de petite taille parce que c'est le souhait de la majorité des humains. Alors, les régions du monde où les femmes ont encore 3 enfants en moyenne chacune, voire plus, c'est l'Afrique et c'est quelques régions en Asie, notamment une bande qui va de l'Afghanistan jusqu'au nord de l'Inde en passant par le Pakistan. Alors, c'est à la fois là où la fécondité est en baisse, mais elle est encore au-dessus de 3 enfants. Et donc, c'est dans ces régions que aura lieu le gros de l'accroissement démographique demain. En tout cas, cette question du droit à la contraception, chaque couple, chaque femme, chaque homme a droit à avoir le nombre d'enfants qu'il souhaite quand il le souhaite. Alors, tous n'ont pas 2 enfants en moyenne, comme c'est un petit peu le modèle, c'est dans certaines régions parce qu'ils souhaitent avoir plus d'enfants encore. Alors, c'est le cas dans toutes ces régions que j'ai dites. Et c'est souvent lié à une situation socio-économique qui est défavorable. Donc, des femmes qui sont peu instruites, une économie peu développée. Et donc, ce qui va pousser ces couples à souhaiter avoir moins d'enfants, c'est le développement économique, c'est la diffusion de l'instruction, notamment chez les femmes. Les femmes qui sont allées à l'école ont moins d'enfants que celles qui n'y sont pas allés. Et c'est vrai partout sur la planète. Et donc, ce mouvement de diminution de la fécondité, il devrait se poursuivre, mais il ne va se poursuivre que s'il y a un développement économique qui s'accompagne, et aussi s'il y a des politiques des États, mais tous les États ont des politiques qui sont plus efficaces, peut-être, et des dirigeants responsables de les implémenter qui sont convaincus qu'il faut aller vers la famille de petite taille. Mais pour résumer, on ne peut pas imposer à des familles, à des femmes, un certain nombre d'enfants. Le taux de natalité, il ne se décide pas en Conseil des ministres, il ne se décide pas au sein d'un comité de la population. Alors, c'est les couples et c'est les femmes qui décident.
Alors, Serge Guérin, vous avez évoqué l'avenir de la Terre qui pourrait peut-être ne plus suivre si nous sommes trop nombreux. Réaction d'auditeurs des courriels. La Terre aura-t-elle assez de ressources pour nourrir les hommes en 2100 ? Ou encore, là c'est Jacques qui écrit, est-ce qu'il y a un chiffre de population mondiale qui signifierait là, on est trop nombreux, la Terre ne peut pas nourrir autant de monde ?
Alors, d'une certaine manière, c'est déjà le cas, puisqu'on sait bien, on calcule le jour où on commence à utiliser les ressources premières de la Terre. Donc déjà, on commence à peu près aux 2/3 d'année, on va déjà trop loin. Donc de ce fait, c'est fait. Après, cette notion-là, elle a évolué. Malthus avait un chiffre beaucoup plus bas. Donc tout dépend aussi. On a aussi inventé beaucoup de choses. semble avéré, c'est que dans les conditions de production et dans les conditions de consommation d'aujourd'hui, ça ne peut pas tenir. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on fera ? Si on tous on mange moins entre guillemets, si tous on consomme moins entre guillemets, si tous on consomme à proximité, si tous en partie nous fabriquons nous-mêmes ce que nous mangeons, ce que nous consommons, si on développe tout ce qui est économie circulaire, si on réutilise les choses, voilà, avec des si, finalement, si on change de société, si on fabrique nous-mêmes, si on est dans le soin, si on est dans l'attention à l'autre, enfin voilà, si on invente une société beaucoup plus bienveillante, si on invente ce qu'on appelle une société du care, il peut y avoir plus
de monde. Mais si on le fait pas, on va disparaître?
Ben, si on le fait pas, on prend un risque à un moment donné, ou en tout cas, qu'il y ait un affrontement assez gigantesque et assez, hyper dangereux, où du coup, il y aura des gagnants et des perdants, et des gens, en effet, qui n'auront pas assez à manger. Et du coup, d'ailleurs, il y a quand même, je reviens juste sur ce qui a été dit, il y a quand même aussi des cultures, ou des religions, il y a une partie de l'islam, on va dire, intégriste, qui lui pousse plutôt à ce qu'on fasse des enfants, par exemple. Donc, il y a des politiques, il y a des états, qui sont encore dans une logique où plus il y a de monde, plus je suis fort. Donc, il y a aussi ces problématiques-là. Et puis, malheureusement, il y a aussi de plus en plus d'états qui sont extrêmement, totalitaires. On va penser par exemple à la Chine qui pendant très très longtemps a construit une politique de l'enfant unique. Alors ils y sont revenus, mais d'ailleurs les Chinois ne suivent pas. C'est-à-dire qu'ils se sont pas mis tous à faire deux enfants d'un seul coup.
Gilles Pison, vous vouliez intervenir à propos de cette inquiétude qui se manifeste chez les auditeurs. Voilà, est-ce qu'à un moment donné, la Terre ne pourra plus suivre, on sera trop nombreux?
Alors, je pense que le risque n'est pas qu'il n'y ait pas assez à manger pour tout le monde. Si vous voulez, il y a deux siècles, on était 1 milliard d'humains sur la planète. Et la proportion d'humains qui souffraient de faim et la proportion d'humains qui mouraient de faim était bien plus élevée qu'aujourd'hui. Alors le paradoxe, c'est qu'on est 7,5 fois plus nombreux. On est un peu plus de 7,5 milliards. Et on mange beaucoup mieux à notre faim que nos ancêtres d'il y a deux siècles. De la même façon, si on prend des critères de santé, on vit beaucoup mieux aujourd'hui. Par exemple, l'espérance de vie à la naissance est en moyenne de 70 ans sur la planète. Il y a deux siècles, elle était de 25 ans. Donc, il y a ce paradoxe. On vit beaucoup mieux aujourd'hui, mais on est beaucoup plus nombreux qu'il y a deux siècles. Hein.
Oui.
Et dans les médias, ce n'est pas la nourriture qui va manquer, probablement. Ce n'est pas l'eau qui va manquer. En revanche, on l'a évoqué, c'est que ce n'est pas tenable de vivre sur le mode de vie des Américains, des Européens, des Japonais, à 7,5 milliards. Ça, c'est clair. Mais finalement, ce n'est pas tellement la question du nombre qui importe. Hein. On peut très bien vivre à 10, 11, voire 15 milliards d'humains sur la planète, mais consommant moins de ressources, en ne mettant pas en danger l'environnement. Et donc, on sait que l'humanité n'échappera pas à un surcroît de 2 à 3 milliards d'habitants d'ici 2050. On sera autour de 2 milliards. Hein. C'est en raison de l'inertie démographique que nul ne peut empêcher. Mais il est possible d'agir en revanche sur les modes de vie, et ceci sans attendre tout de suite, afin de les rendre plus respectueux de l'environnement et plus économes en ressources. Si vous voulez. Donc, la vraie question, ce n'est pas le nombre d'humains qu'on est, c'est la façon dont nous vivons.
Au standard, avec nous, Dominique à Toulouse. Dominique, merci d'écouter Le Téléphone Sonne et France Inter et d'avoir appelé le 01 45 24 7000. C'est à vous maintenant, vous êtes sur l'antenne.
Oui, bonsoir. En fait, votre premier auditeur, Patrice, a déjà posé une question un peu que je voulais poser. Votre sociologue, il a parfaitement répondu. Donc, je voudrais revenir sur ce point de la consommation, de notre consommation. Oui. On sait que dans les pays occidentaux, il y a 60% de déchets qui sont dans notre propre poubelle, chez nous. D'accord, entre 50 et 60, hein, chez nous, chez chacun des habitants, vous, moi, oui, les auditeurs, etc. D'accord. Y aurait-il pas un moyen, plutôt que, comme je le vois dans les supermarchés, par exemple, de vendre des barquettes de 12 steaks ou 18 steaks à 5 euros, de vendre des barquettes de 2 steaks, et c'est là que je suis tout à fait d'accord avec votre sociologue, d'ailleurs, de délocaliser, justement, la production dans les pays où ils ont rien à manger, parce que si on fout 60% chez nous à la poubelle, alors bien sûr, après il y a les grandes surfaces aussi, ont du gaspillage, mais apparemment le plus gros gaspillage se fait quand même par nous-mêmes. Donc, voilà, je me dis, y aurait-il pas moyen de délocaliser ces productions dans les pays où ils en ont besoin? Et puis que nous, on passe plus des barquettes de 18 steaks et qu'on en passe des barquettes de 4.
Dominique, voilà. On va vous répondre. Serge Guérin, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement et professeur à l'école de commerce et de management INSEC à Paris.
Oui, je crois que tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que on est dans une économie de gâchis. Alors, c'est une économie de tous les gâchis. C'est le gâchis de la richesse des personnes. Hein, on met les gens dehors très tôt, trop tôt. On estime qu'ils sont trop vieux trop tôt. C'est le gâchis de plein de compétences. Si vous n'êtes pas super bon en maths, on vous met dehors, ainsi de suite. Et on consomme, on surconsomme. Il suffit de regarder nos poubelles pour quand même, ça fait un peu peur, quoi. On est extrêmement impressionné par ça. Tout ce qu'on achète, puis finalement, on n'utilise pas. Les gens qui vont aller faire les soldes pour acheter des produits qui finalement, ils ne vont pas utiliser, ainsi de suite. Si simplement on achetait ce dont on a besoin, et puis ce dont on n'a pas besoin, on le donner à d'autres et ainsi de suite, enfin, on réduirait très fortement l'utilisation autour de tout ça. Donc c'est vrai que là, il y a inventé une société qui soit une société, en fin de compte, plus au régime de certaine manière, qui fasse plus attention à tout ça, qui se fasse pas du mal, qui soit pas triste, qui soit pas malheureuse, mais vaut mieux... Moi, je ne mange pas de viande à titre personnel, mais vaut mieux manger moins de viande et qu'elle soit de qualité et qu'elle soit produite dans des conditions qui respectent le producteur et qui respectent l'animal, plutôt que baffrer de la viande juste pour manger de la viande. Et du coup, en effet, dans d'autres pays, on ferait là aussi moins de viande pour consommer sa propre viande. Encore une fois, c'est réduire les échanges pour utiliser plus sur place, mais ça veut dire aussi, à chaque fois, produire de façon moins intense, mais en respectant plus les sols, en utilisant moins de tout ce qui est les systèmes chimiques et ainsi de suite, et sans doute que du coup, on respecterait mieux l'environnement, on aurait une meilleure qualité et on mangerait moins.
Alors, de nombreux courriels sur le site franceinter.fr à propos de l'Afrique, le continent africain, je vous les lis, on prévoit une croissance démographique fulgurante en Afrique. Combien d'habitants en Afrique en 2050, puis en 2100? Qui veut tout de suite donner des chiffres,
Gilles Pison? Quelques chiffres, oui. Alors, c'est vrai que la croissance de la population africaine est assez spectaculaire. Et on estime qu'il y avait 140 millions d'humains en 1900 en Afrique. Hein. Elle en comptera 2,5 milliards en 2050. Aujourd'hui, elle en compte 1,3 milliard. Et on estime qu'elle pourrait en compter plus de 4 milliards en 2100. Là, c'est le scénario moyen des projections des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est un humain sur 6 qui habite en Afrique. En 2050, ça sera 1 sur 4 et plus d'un sur 3, peut-être, en 2100, selon ces mêmes projections. Alors, avec ça, les choses bougent en Afrique. Si la population augmente rapidement, c'est en raison de l'excédent des naissances sur les décès. Il y en a 4 fois plus de naissances que de décès. Mais avec ça, la fécondité diminue. Les femmes mettent au monde 4 enfants et demi en moyenne chacun. Aujourd'hui, c'était plus de 6,5 il y a 40 ans et 5,5 il y a 20 ans.
Alors sur ce point, Gilles Pison, sur ce dossier de l'Afrique et de la démographie, Emmanuel Macron a une opinion qu'il ne cesse de répéter. Il fait le lien entre développement et démographie. Écoutez ce qu'il disait il y a une semaine à Lagos, au Nigeria, lors d'une émission de RFI et France 24.
Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7-8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. D'autant que la concentration de la richesse ne se fait pas bien. Et donc, avoir une politique de planning familial, avoir une politique d'éducation des jeunes filles, de lutte contre le mariage forcé, c'est la nécessité, c'est comme ça que l'Afrique deviendra un grand continent.
Gilles Pison, vous partagez ce constat d'Emmanuel Macron ?
Oui, alors il a évoqué des chiffres de plus de 7 enfants par femme dans certains pays. Alors il y a un seul pays du monde, il est en Afrique, c'est le Niger, hein, où les femmes ont plus de 7 enfants. Mais même dans ce pays, ça diminue et ça diminue dans toute l'Afrique. Alors d'abord, aujourd'hui dans les milieux instruits et en ville, plus que dans les campagnes où encore vit la majorité de la population. Et cette baisse, elle est plus lente qu'on imaginait. Alors faut dire qu'on compare l'Afrique avec l'Asie et l'Amérique latine qui ont étaient un peu dans la même situation. Il y a 40-50 ans, les femmes avaient encore 5 enfants, en moyenne chacune. On anticipait bien que les familles allaient limiter leur naissance et on pensait que ça prendrait un peu de temps. Et la surprise, il y a 40 ans, c'est que les enquêtes ont révélé que la fécondité avait commencé à baisser très rapidement dans beaucoup de pays d'Asie et d'Amérique latine. Et du coup, on a revu les projections de population pour ces continents à la baisse. Alors aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est dans cette situation et la baisse de la fécondité a bien lieu, mais plus lentement qu'il y a 40 ans. Et alors, on se pose la question, pourquoi ? Alors, l'Afrique, le facteur premier, c'est le développement économique. Et l'Afrique, elle se développe sur le plan économique, mais lentement, sans encore avoir atteint le niveau des pays asiatiques ou latino-américains à l'époque où leur fécondité a commencé à baisser. Et donc, comme le rappelait Emmanuel Macron, développement économique et baisse de la fécondité, ça va souvent de pair, hein. Et l'instruction des femmes, c'est un facteur clé. Et donc, il faut mettre le paquet sur l'instruction, sur l'école.
Voilà. Serge Guérin, sur ce qu'a dit, sur ce que déclare depuis un an régulièrement Emmanuel Macron, ce lien entre le développement et la démographie. Si vous faites trop d'enfants, le développement sera beaucoup plus difficile. Il faut réduire.
Oui, souvent on dit la jeunesse, les enfants, c'est un investissement. Eh bien, pas toujours. Ouais. Quand vous en avez trop, c'est pas un investissement parce que vous n'arrivez pas à suivre, y compris en termes de formation de ces personnes. Et puis il y a aussi une autre dimension qu'il faut prendre en compte, c'est la dimension religieuse. Il y a des religions qui militent plutôt pour qu'on continue, pour que les femmes continuent à faire des enfants. Donc il y a aussi cette pression-là et cette des sociétés qui n'arrivent pas à sortir de certaines croyances.
Les auditeurs réagissent évidemment avec les chiffres que vous avez annoncés sur le continent africain. On nous demande est-ce que ces chiffres très importants d'augmentation de la population annoncent des migrations massives venues d'Afrique. Serge Guérin,
On peut imaginer que une partie de cette population ait envie d'aller ailleurs parce que la terre est meilleure, parce que la vie est meilleure, parce que les systèmes sociaux sont meilleurs. Et donc, voilà. Et donc, si sur place, il n'y a pas l'offre suffisante d'emploi, par exemple, d'activité, 50% de la population du Nigeria de mémoire a moins de 15 ans. Donc, dans 10 ans, elle aura moins de 25 ans. Donc, des gens qui auraient été pour partie formés, ils peuvent avoir envie, en effet, d'aller dans des endroits où il leur semble que la vie est plus facile et où elle est d'ailleurs plus facile avec des systèmes sociaux aussi qui sont beaucoup plus adaptés, beaucoup plus agréables. Donc, oui, on peut imaginer qu'il y aura une pression forte.
André, dans le Morbihan. Bonsoir, André. C'est à vous maintenant. Bienvenue sur l'antenne.
Merci. Écoutez, je mets en doute complètement toutes les prévisions qui sont faites. Je vais vous dire pourquoi. Bon, je suis économiste, je suis depuis 40 ans l'évolution, et qui a prévu la crise des technologies, qui sont remontées à 1929? Qui a prévu la crise des subprimes? Actuellement, on nous parle de migration, etc. Savez-vous que s'il n'y avait pas l'effet de serre, c'est le plus grand climatologue qui le dit, la température baisserait de 1 degré. Ça paraît aberrant, mais c'est comme ça. Et le meilleur exemple, c'est l'Hudson Institute. En 1967, il prévoyait, dans l'ordre des pays les plus industrialisés, les États-Unis, le Japon, le Canada et la Suède. Ensuite, il mettait l'Europe occidentale, l'Union soviétique, Israël, l'Allemagne de l'Est. Bon, on passe sur l'Allemagne de l'Est, la Pologne, etc. Et à la fin, c'est surtout ça qui est intéressant, enfin les pays qui n'auront pas atteint la phase industrielle en 2000, la Chine, l'Inde et le reste de l'Amérique latine, je passe
mais alors,
les pays
arabes. André, ce que vous voulez nous dire là, c'est que donc vous ne croyez pas du tout les prévisions de certains spécialistes, mais là vous mettez en cause quoi? Les prévisions démographiques, l'augmentation de la population?
Non, je dis globalement que malgré les progrès qu'ont fait les différentes sciences, on est incapable actuellement, de prévoir à 5 ans ou 10 ans ce qui se passera. Bon. Qui avait prévu il y a quelques années que la température augmenterait sur la Terre de façon aussi importante? Si quelqu'un avait prévu que cet effet de serre, toutes les prévisions sont dépassées. Donc, moi, je dis attention aux prévisions. On a des grands exemples que nous ont montré les aînés, avec les gens les plus compétents qui existaient, qui se sont complètement plantés. L'exemple que je viens de vous donner, est caractéristique. Donc c'est dangereux de faire des prévisions.
Très bien,
André. C'est dangereux d'affirmer un certain nombre de choses.
On va vous répondre, Gilles Pison. C'est dangereux de faire des prévisions ?
Alors, il se trouve qu'en démographie, on dispose d'un outil, les projections de population, qui sont relativement solides à 10, 20, 30 ans. Et les économistes nous envient, nous démographes, de cet outil, parce qu'eux, ils sont bien en mal de faire des projections économiques à quelques années près, et ils sont souvent démentis, hein. Alors pourquoi ? Ben c'est, si vous voulez, la population en 2050, qui donc est estimée autour de 10 milliards, peut-être, hein, ça sera peut-être 9 milliards ou 11 milliards, mais ça sera 2 à 3 milliards en plus par rapport à aujourd'hui. Pourquoi elle a une certaine solidité ? Ben, si vous voulez, plus de la moitié des humains des 10 milliards qui vivront en 2050, ils sont déjà nés. Hein ? On connaît leur nombre, on connaît la part parmi les 7,6 milliards que nous sommes aujourd'hui, de personnes qui ne seront plus en vie en 2050. Et viendront se rajouter d'ici là les enfants qui vont naître d'ici 2050, donc un peu plus de 30 ans. Ils vont naître de femmes dont on connaît le nombre, si vous voulez. On peut estimer à peu près combien elles pourraient avoir d'enfants. Et donc, on ne se trompe pas énormément. Bien sûr, on ne connaît pas le chiffre précis, mais à, si vous voulez, 9 à 11 milliards, on ne se trompe pas beaucoup. Et donc, ça, c'est une force. Et alors, la même chose quand certains pensent qu'il faudrait arrêter tout de suite la croissance de la population, voire diminuer la population parce que ça serait mieux. Alors, je ne sais pas si ça serait mieux, mais ce n'est pas possible. Il est illusoire de penser pouvoir agir sur le nombre des hommes à court terme. Si vous voulez, la diminution de la population, ce n'est pas une option. Comment l'obtenir ? Par une hausse de la mortalité ? Personne ne le souhaite. Par une émigration massive vers Mars ? Irréaliste. Par une baisse drastique de la fécondité et son maintien à un niveau très inférieur au seuil de remplacement, c'est-à-dire 2,1 enfants par femme, c'est déjà ce qui se passe dans une grande partie de l'humanité. Oui. Les hommes ont fait le choix d'avoir peu d'enfants, mais il n'en résulte pas immédiatement une diminution de population en raison de l'inertie démographique. Alors, si vous voulez, même si la fécondité mondiale n'était que de 1,6 enfants par femme, comme en Europe ou en Chine, la population continuerait d'augmenter pendant encore quelques décennies.
Voilà, Gilles Pison, sûr de ces chiffres. Serge Guérin, vous voulez ajouter un mot ?
Non, c'est vrai que la démographie, quand on est, il y a des chances que 30 ans plus tard, on ait 30 ans. Donc on connaît un certain nombre de choses. Mais juste, il y a déjà des pays, alors plutôt des pays européens, ou par exemple le Japon ou la Corée, qui voient leur population diminuer. Il y a même des démographes qui ont calculé que vers 2815 naîtrait le dernier enfant japonais, quoi. Parce qu'à force qu'il y ait de moins en moins d'enfants par femme, évidemment, au bout d'un moment, ça diminue.
Non, donc, c'est sérieux, c'est parce qu'on a eu des questions d'auditeurs. Qu'en est-il, justement, au Japon, 127 millions d'habitants aujourd'hui, on annonce seulement 88 millions en 2065. Je ne comprends pas. Expliquez-nous.
Voilà. Bah, parce qu'il faut globalement deux personnes pour faire un enfant. Voilà, c'est à peu près généralement comme ça que ça marche, même si on invente maintenant des solutions diverses. Et donc, le taux de fécondité par femme, c'est 2 plus un petit quelque chose, parce que malheureusement, il y a des décès, ainsi de suite. Quand il y a moins de 2, je crois qu'à Tokyo, par exemple, on est à 0,95. Voilà. Et je crois qu'au Japon, de mémoire, mais Gipisson est bien meilleur que moi, c'est 1,4, 1,5. Donc à chaque fois, ça diminue. Et donc du coup, même au début, c'est caché entre guillemets parce que les gens vivent plus longtemps qu'auparavant. Mais quand il y a moins d'enfants qui naissent, eux-mêmes font moins d'enfants, qui font moins d'enfants, et ainsi de suite. Donc au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'autres populations qui arrivent, ce qui est le cas au Japon, disent nous on veut pas d'immigration. D'ailleurs, ils disent souvent on veut pas être comme la France. Hein, donc ils refusent ce système-là. Du coup, ils prennent entre guillemets un risque qui est une diminution de la population, voire une disparition. Enfin, c'est pas tout de suite quand même. Mais vous avez la même situation en Allemagne, par exemple, qui voit sa population diminuer. Vous avez la même situation en Russie.
Elle ne diminue pas. Elle ne diminue pas.
Pardon,
un petit correctif.
Hein. Oui, pour l'Allemagne.
Oui, je voulais faire un petit correctif. La population du Japon diminue. Il y a plus de décès que de naissances et l'immigration est modeste, comme l'a rappelé Serge Guérin. L'Allemagne, en revanche, voit sa population augmenter, mais avec un excédent important des décès sur les naissances, donc il naît moins de personnes qui n'en meurent, mais qui est plus que compensé par une immigration. Si vous voulez, le sol migratoire, la différence entre les entrées de migrants et les sorties de migrants est suffisamment importante et du coup, la population augmente. Et donc, ça sera le problème que va affronter le Japon. Déjà, il se soucie de la diminution de la population et surtout du vieillissement de sa population et du manque de main-d'œuvre. Donc, Voilà. Mais l'Allemagne a une situation un peu similaire du point de vue des naissances et des décès, mais la population continue d'augmenter grâce à l'immigration.
Donc, ça veut dire que lorsque Angela Merkel accueille des réfugiés, il y a bien sûr l'aspect humanitaire, mais il y a aussi peut-être, au fond de sa pensée, de se dire on a besoin d'immigration pour faire tourner ce pays. Gilles Pison.
Bah, les grands pays comme les grands pays d'immigration comme les États-Unis, l'Australie ne se posent pas la question. Ils savent, ils ont conscience d'être des pays d'immigration, des pays qui se sont bâtis sur l'immigration et ça leur pose pas de souci. Mmh. En Europe et en France, on a un souci, c'est qu'on ne réalise pas qu'on est un pays, en France, qui s'est construit sur l'immigration et qui est ancienne. Ça fait plus d'un siècle, et avec des périodes où les flux migratoires ont été nettement plus importants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très modeste.
Mais la France n'est pas un pays où on assiste à un vieillissement de la population, comme en Allemagne, comme au Japon ?
Mais, si vous voulez, la population vieillit partout. Parce que c'est une conséquence de l'allongement de la durée de la vie et personne va trouver que c'est une mauvaise chose qu'on vive plus longtemps et aussi par la réduction de la taille des familles. Et donc, ce phénomène de vieillissement, il est mondial, de vieillissement démographique. La France, par rapport à ses voisins en Europe, voit son vieillissement s'effectuer plus lentement que dans les autres pays. Ce qui peut être un avantage pour gérer finalement l'adaptation de la société à une population plus âgée.
Des appels au standard. Igor est avec nous. Bonsoir Igor.
Bonsoir.
C'est à vous. Vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter et c'est bien.
Merci. Eh bien, je dirais que plutôt que de s'inquiéter du vieillissement, le plus gros problème, c'est quand même l'emballement démographique. Et face à cet accroissement mondial, qui va générer des problèmes d'écologie, vous l'avez dit, mais aussi de conflits, il y a un démographe français, Boutoul, qui l'a très bien montré à travers la polémologie. Eh bien, pour éviter tous ces catastrophes, il faut limiter la population mondiale et donc il faut être moteur et montrer l'exemple. Et comment la France peut-elle justifier sa politique nataliste issue, je sais, de la défaite de 1870, de Pétain, enfin, etc. Comment la France peut-elle justifier sa politique nataliste et pour pouvoir donner des leçons aux autres qui pèsent beaucoup moins sur la planète, l'empreinte démographique un Éthiopien, c'est rien par rapport à un petit Français.
Serge Guérin.
C'est-à-dire que d'abord, la France a une politique nataliste, mais enfin, qui reste relativement modérée, puisqu'on est, par rapport à l'Europe, on est un des pays où le taux de fécondité est le plus élevé. On a été longtemps autour de 2 pendant un certain temps. Aujourd'hui, on descend un petit peu. Donc, on est dans une situation, je dirais, modérée, justement. C'est-à-dire que pas trop d'enfants. Autour de 2, donc pour un renouvellement de la population, mais ça va pas plus loin. Et rappelons quand même que l'Europe, qui représentait, j'ai plus tout à fait en tête, mais une proportion très importante de la population totale mondiale, va finir par représenter moins de 5%. Donc c'est pas en Europe où ça se joue.
Anne à Lyon, bonsoir Anne.
Oui, alors justement, en parlant d'immigration, moi je me demandais si l'accueil des personnes en situation d'immigration ou des réfugiés, c'est pas vraiment la même chose, mais bon, ça serait la même chose. L'accueil de ces personnes dans les pays riches européens, par exemple, ne serait pas partie de la solution dans la mesure où on veut continuer d'avoir une population qui s'accroît pour payer nos retraites, nous en France, pour justement pas vieillir, pas avoir une population qui vieillit. Si on accueille des adultes déjà élevés, formés, qu'on n'aurait plus qu'à adapter à notre société et qui le ferait volontiers parce que souvent ils sont demandeurs, on les accueille dans une société où il y a déjà un environnement propice justement à la maîtrise de la fécondité, peut-être qu'ils n'ont pas ça actuellement dans leur pays, on accueillerait donc ces adultes, on les intègre à notre population, ça n'accroît pas la population, mais ça règle le problème des personnes capables de travailler sur les pays dits avec des populations vieillissantes. Je me demande si c'est pas partie de la solution et que les rejeter, c'est tout le contraire, c'est refuser une partie de la solution.
Serge Guérin.
Alors, je vais essayer sur plusieurs éléments. Le premier, c'est que la France est une terre d'immigration très forte. Il y a à peu près 200 à 250 000 personnes nouvelles chaque année. Donc le débat sur les migrants et tout ça, c'est une proportion extrêmement restreinte de la question. Deuxième élément, les gens qui viennent de l'étranger sont comme les autres, ils vieillissent. C'est-à-dire qu'ils arrivent peut-être à un moment donné pour travailler, mais après, ils seront aussi à la retraite. Donc il y a toujours un côté qui m'étonne un peu chez les économistes, de dire, oui, il y a des gens qui vont venir travailler, mais ceux-là, sauf si on les rejette après, enfin voilà, ça marche pas comme ça, ils resteront aussi pour leur retraite. Un pays comme l'Australie a un système de quotas, c'est-à-dire qu'ils prennent des immigrés, mais qui ont les compétences qu'ils recherchent. Nous, je rappelle qu'il y a 6 millions de chômeurs en France. Donc, il y a aussi cette problématique-là. Voilà. Donc, tout ça doit être pris en compte. Et puis, il y a aussi des gens qui arrivent avec des cultures qui sont très différentes des nôtres, ce qui est aussi une problématique à prendre en compte. Donc, tout ça demande, si ces personnes-là arrivent, si tant est qu'elles soient en capacité de travailler avec les compétences, et ainsi de suite, il y aura de toute manière un besoin très fort d'éducation, d'intégration extrêmement forte. On n'ose plus dire assimilation. Enfin, c'est quand même toutes ces questions-là qui se poseront. Donc, c'est malheureusement beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on a la capacité, y compris technique, y compris culturelle, d'intégrer toute cette population ?
Courriel d'auditeur Michel. La population de la planète augmente et la faim dans le monde, on nous le dit, recule. Est-ce la preuve définitive que le malthusianisme est une idée fausse ? Je rappelle, comme je ne veux pas en rajouter, mais enfin Malthus est un économiste anglais qui avait vécu, je crois, à la fin du XVIIe siècle et dont les travaux liaient...
XVIIIe siècle.
Pardon, oui. Et il liait la croissance de la population et la conséquence, c'était pour lui la paupérisation. Alors, est-ce que le malthusianisme est une idée fausse ?
Alors, Gilles Pison. Est-ce que je peux répondre ? Oui, c'est-à-dire, quand Malthus s'exprimait, en tout cas, à rédiger son ouvrage, eh bien, il parlait de l'Angleterre. Hein,
oui.
Il voyait une menace en Angleterre parce que la population augmentait et puis que les ressources, notamment l'alimentation, ne suivaient pas. Alors, l'Angleterre, elle faisait moins de 10 millions d'habitants à l'époque, hein, fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, elle en compte 66 millions. Donc, Malthus s'est trompé. Ça n'a pas été la catastrophe. Les 66 millions de Britanniques vivent beaucoup mieux que les 10 millions de Britanniques du temps de Malthus.
Mais notre auditeur constate que la population de la planète augmente et que la faim dans le monde recule.
C'est ce paradoxe, ouais. C'est qu'on vit aujourd'hui selon les critères habituels, espérance de vie à la naissance, proportion de gens qui mangent à leur faim, etc., beaucoup mieux qu'il y a deux siècles. Hein. Avec ça, ça ne veut pas dire que tout est rose, mais il faut voir que spontanément et de l'intérieur, la population voit son taux de croissance ralentir. Et donc, c'est parce qu'on va vers la famille de petite taille partout, mais ça n'entraîne pas immédiatement un arrêt de la croissance de la population, parce que la population mondiale comprend une proportion importante de jeunes adultes.
Oui.
Et donc, même si chacun d'eux avait peu d'enfants, comme en Europe, 1,6 en moyenne chacun, la population continuerait d'augmenter parce qu'ils sont nombreux, ces adultes en âge d'avoir des enfants. Donc
c'est
une démographie qu'on ne peut pas empêcher.
Ouais, il est déjà 19h58, Patrice à Champigny veut dire un mot, faire un constat. Je vous écoute, Patrice, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Ça passe vite, cette émission. Hein.
Oui, bonsoir, merci beaucoup pour vos émissions. Voilà, je vous appelle parce que il avait été question donc de développement et d'éducation. Et la question que je me posais, c'est comment on peut demander, donc surtout aux pays d'Afrique hein, d'ailleurs, de se développer et d'éduquer leur population lorsque la Banque mondiale et le FMI leur demandent de réduire leurs dépenses publiques, donc d'éducation et de santé.
Serge Guérin.
Je crois que vous avez parfaitement raison. On parle de dépenses, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que les questions d'éducation, les questions de planning familial, c'est de l'investissement. Et c'est là, en effet, où il faut qu'il y ait une capacité de solidarité sociale, de sécurité sociale, d'investissement social. Et en effet, on ne peut pas demander d'un côté à essayer à ce que la population augmente pas trop, et d'autre côté, une démission de l'État et du corpus social et la société sociale.
Merci à nos invités. C'était le téléphone Funson ce soir avec Serge Guérin, sociologue, et Gilles Pison dans les studios de France Bleu La Rochelle. Merci à Benoît Tarot qui nous a permis d'établir cette liaison avec La Rochelle. Gilles Pison qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et chercheur associé à l'Institut National d'Études Démographiques. En cette fin de semaine, bien sûr, un grand merci à toute l'équipe du Téléphone Sonne. À la technique, il y avait Ludovic Asselot, Loïc Frapsos et Arnaud Caillet. La réalisation Lucie Lemarchand. Et la préparation de l'émission, c'est du boulot. Simon Aresta, Pierre de Certaine et Caroline Baudry. On se retrouve lundi à 19h20. Merci à vous. Hein. Sans vous, rien ne serait possible. Mais là, ce qui est possible, c'est qu'il est tout juste 20h.